pouvoir te retrouver. On se perd tous en chemin, on s'éloigne de nos instincts. Est-ce que c'est vraiment toi, là? Est-ce que c'est vraiment toi? Te feras-tu tout petit pour faire comme les grands? Feras-tu machine arrière pour aller de l'avant? Ressens-tu cette envie de ne plus avoir envie? Pourras-tu retenir ton souffle toute une vie? On se perd tous en chemin, on s'éloigne de nos instincts. Sauras-tu faire face quand tu tomberas sur pile? Sauras-tu faire pile quand l'évidence s'efface? Nageras-tu dans le bonheur sans te jeter à l'eau? Referas-tu surface sans avoir touché le fond? Pourras-tu t'envoler en gardant les pieds sur terre? Pourras-tu t'envoler sans brasser de l'air?
Résonance sur Radio B, Alain Goudard, bonjour et bienvenue. Résonance, une émission qui donne la parole, accompagne tous ceux et toutes celles qui s'aventurent sur les chemins des pratiques artistiques et de la création. Au sommaire de notre émission, nous retrouverons notre traditionnelle rubrique « Paroles d'auteur, paroles de compositeur », aujourd'hui Charles Baudelaire et avec Tiffany Vacher. Puis nous vous proposerons d'aller à la rencontre de la musique d'Henri Duparc, qui a mis en musique plusieurs poèmes de Charles Baudelaire, et notamment « L'invitation au voyage », une invitation qui nous emmènera justement à franchir la frontière qui nous est toute proche, c'est-à-dire en Suisse voisine, pour là aussi nous emmener dans un voyage particulier autour de la céramique. Et j'aurai le plaisir à cette occasion d'accueillir à ce micro Sophie Wirth-Brentini, qui est la commissaire de cette nouvelle exposition qui ouvrira ses portes en mai prochain au musée Ariana à Genève. Celle-ci est justement intitulée l'invitation au voyage. Puis avec Tiffany Vacher, elle nous fera part à travers de sa chronique comment aujourd'hui les musées en France se mettent en capacité d'ouvrir leurs expositions et leurs collections à tous et notamment aux personnes en situation de handicap. J'évoquais la Suisse voisine donc dans la suite de cette émission. émission, nous découvrirons également, en écho à la musique d'Henri Duparc, la musique de compositeurs suisses, notamment William Blanc et Nicolas Bolens. Et enfin, nous évoquerons également, cette fois-ci, pour garder ce clin d'œil et cette proximité avec la Suisse voisine, un projet de coopération naturellement, les rencontres de naturellement, qui associe art, nature et singularité et qui sont placées sous l'égide du comité régional franco-genevois. Mais si vous le voulez bien, maintenant nous retrouvons notre rubrique Parole d'auteur, parole de compositeur, aujourd'hui avec Tiffany Vaché.
Une foule de gens se figurent que le but de la poésie est un enseignement quelconque, qu'elle doit tantôt fortifier la conscience, tantôt perfectionner les mœurs, tantôt enfin démontrer quoi que ce soit d'utile. La poésie, pour peu qu'on veuille descendre en soi-même, interroger son âme, rappeler ses souvenirs d'enthousiasme, n'a pas d'autre but qu'elle-même. Elle ne peut pas en avoir d'autre, et aucun poème ne serait si grand, si noble, si véritablement digne du nom de poème que celui qui aurait été écrit uniquement pour le plaisir d'écrire un poème. La poésie ne peut pas, sous peine de mort ou de défaillance, s'assimiler à la science ou à la morale. Elle n'a pas la vérité pour objet, elle n'a qu'elle-même. Notice sur Edgar Poe de Charles Baudelaire.
Thank you.
Vous écoutez Résonance sur Radio B. C'était l'invitation au voyage, musique de Henri Duparc, compositeur né en 1848 et décédé en 1933, sur un poème de Charles Baudelaire, 1821-1867. C'est bien aussi de se resituer dans le temps. Interprété par la soprano Véronique Dietschy et au piano Emmanuel Trosseur. La poésie de Charles Baudelaire et la musique d'Henri Duparc entrent en résonance justement avec l'une des expositions intitulée également « L'invitation au voyage » que le musée Ariana de Genève ouvrira prochainement au public au mois de mai. Comme vous le savez, chers auditeurs, nous suivons certaines initiatives artistiques, certains lieux de production artistique dans la Suisse voisine et notamment ce qui se passe régulièrement au musée Ariana de Genève, musée avec lequel d'ailleurs vous avez pu faire connaissance tout récemment puisque nous avons diffusé sur l'antenne de Radio B une série de 3 émissions qui présentaient justement la philosophie et certaines actions développées par le musée Ariana à Genève. Alors aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir à ce micro Sophie Wirth-Brentini qui est justement la commissaire de cette nouvelle exposition intitulée « L'invitation au voyage ». Bonjour et bienvenue dans notre émission.
Mais bonjour et merci pour votre accueil, tout en luxe, calme et volupté, disons-le.
Voilà, je me disais qu'en vous proposant justement, aussi bien à nos auditeurs qu'à vous-même, cette invitation au voyage d'Henri Duparc, c'était déjà une bonne entrée en matière, en tout cas par rapport au sujet autour duquel nous allons converser ensemble.
Volontiers, en tout cas c'est avec grand plaisir que je découvre cette pièce que je ne connaissais pas.
Voilà. Alors, on aura l'occasion justement de découvrir la version instrumentale tout à l'heure. Alors là, c'était avec la version texte. Alors peut-être, je ne sais pas, quelle version connaissiez-vous pour votre part ?
Alors, je ne connaissais pas le travail d'Henri Duparc.
D'accord.
Honte à moi. Mais j'aimerais tout de suite amener une petite correction.
Je vous en prie.
L'exposition à venir s'intitule justement « Luxe, calme et volupté ».
Vous avez raison.
Et non pas « L'invitation au voyage ».
Voilà, elle a servi de...
L'exposition vient, bien sûr, de « L'invitation au voyage » de Charles Baudelaire.
Très bien. Alors peut-être, Sophie Wirth-Brentini, peut-être pourrions-nous, même si nos auditeurs, comme j'expliquais juste avant, ont commencé à avoir une bonne connaissance de ce qui se passe au musée Ariana, puisqu'on a réservé une série de 3 émissions et qu'elles ont été diffusées toutes récemment, peut-être on peut, en quelques mots, en tout cas, si vous le voulez bien, resituer peut-être l'émission et le rôle aujourd'hui du musée Ariana à Genève.
Alors il s'agit essentiellement de promouvoir donc l'histoire de la céramique et du verre au niveau international puisqu'on est un des tout grands musées consacrés à ces domaines spécifiques en Europe et le seul musée consacré à la céramique et au verre en Suisse. Et nous sommes en fait le second musée ouvert à Genève après le musée Rath. Et grâce à l'œuvre de notre mécène, M. Gustave Reviaud.
Voilà, hein, on a pu découvrir un petit peu, justement, au cours de nos émissions, toutes ces relations. Et donc, justement, au travers de cette spécificité et cet aspect assez unique en Europe pour le musée Ariana autour de la céramique, vous cherchez aussi à faire connaître, à valoriser la création contemporaine. Il y a les collections, mais il y a aussi ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine de la céramique. Et je crois que c'est un petit peu à partir de cette idée qu'est née un peu, en tout cas, l'envie de cette nouvelle exposition.
Oui, tout à fait. Alors en fait, la promotion de la céramique tourne aussi également autour des relations avec les institutions de formation de ces domaines, bien sûr, mais également de soutenir la création céramique. Mmh. Et si on n'a pas des budgets d'acquisition qui permettent, sur une base très régulière et annuelle, l'acquisition de nouvelles pièces, on peut au moins soutenir les artistes en les invitant à exposer régulièrement chez nous.
C'est ça.
Alors là, dans le cadre de Luxe, Calme et Volupté, c'est en fait l'association suisse des céramistes, Swiss Ceramics, qui a sollicité le musée pour une collaboration. Le musée et l'association professionnelle ont déjà collaboré à plusieurs reprises, et ce dès sa réouverture après rénovation en 1993.
Oui. Mmh.
Mais là, en fait, on a justement été sollicité pour la réalisation de cette exposition. Et le thème suggéré par l'association professionnelle était le luxe. Et en équipe, on a discuté et conjointement également avec l'association professionnelle qu'il s'agissait éventuellement d'ouvrir un petit peu le thème du luxe. Pour ne pas tomber dans le bling-bling un peu trop évident.
Absolument.
Et inviter justement les artistes suisses, les céramistes suisses, à nous faire voyager un petit peu, et en se tournant sur le thème luxe, calme et volupté de l'invitation au voyage. Et en effet, ils ont tout à fait répondu à notre demande, puisqu'on a une très grande diversité d'œuvres que nous avons reçues et sélectionnées.
Oui, il n'y a pas moins de 19 artistes qui ont été retenus. Est-ce que ça veut dire que vous avez reçu plus de propositions? Là, il y a ces 19 retenus, mais est-ce que plusieurs autres artistes ont éventuellement, eux aussi, souhaité vous faire des propositions?
Absolument. Nous avons reçu 70 dossiers.
Ah oui, ce qui est
donc
énorme.
On a vraiment réussi à susciter l'intérêt et l'engouement des artistes autour de ce sujet-là.
Et c'est la première fois que vous lancez un appel, je dirais, de manière aussi conséquente en direction de cette multiplicité d'artistes, ou c'est déjà quelque chose de, je dirais, d'installer un petit peu dans la manière de faire du musée Ariana?
Je suis un petit peu récente au musée pour pouvoir vous répondre de manière tout à fait fiable, malheureusement, sur ce sujet-là. Je pense que ce n'est pas la première fois, mais il faut surtout noter que le concours lui-même était sous la responsabilité de Swiss Ceramics.
C'est ça.
Et nous avons assisté, en fait, l'association professionnelle tenue par des bénévoles dans la réalisation de ce concours. Mais c'est quand même Swiss Ceramics qui a mis sur pied un jury auquel nous avons participé.
D'accord.
Qui était composé de deux designers, de plusieurs céramistes, d'un galeriste et de personnes du musée Ariana, à savoir moi-même, la directrice et la conservatrice Anne-Claire Schumacher. Donc voilà, ce concours a été vraiment organisé par l'association professionnelle. Nous avons participé au choix des artistes. Et puis ensuite de ça, nous prenons en charge la réalisation de l'exposition, l'accueil des artistes, tandis que l'association s'occupe de la publication du catalogue. Donc vous pouvez voir qu'on est vraiment dans une collaboration très rapprochée.
Absolument.
Et un joli partenariat.
Et là, on peut dire que c'est essentiellement des artistes suisses qui ont été retenus?
Absolument, parce que le propos même en fait, de cette exposition est une invitation à exposer pour les membres de l'association professionnelle. Donc il s'agit exclusivement de membres de l'association. Et nous avons une artiste suisse qui travaille à Bruxelles, que l'on accueille, Caroline Andrin. Mais sinon, tous les artistes vivent et travaillent en Suisse.
Et là, on peut dire aussi qu'il y a aujourd'hui, aussi bien sur le plan de la politique, mais aussi de la vie au quotidien, là aussi, il y a la parité. Il y a aussi bien, quand je vois la liste un petit peu des différents artistes retenus, beaucoup de femmes et aussi d'hommes. Enfin, on a vraiment quelque chose, là aussi, des sensibilités très différentes. Et j'imagine que ça doit être très présent aussi dans la manière, dans les œuvres aussi qui vous ont proposées et aussi certainement dans la manière d'utiliser certains matériaux et autres.
Oui, absolument. Alors, cette diversité, elle se retrouve à tous les niveaux. Elle se retrouve aussi bien autour des domaines de prédilection dans lesquels les céramistes travaillent. On a quelques artistes qui nous proposent des travaux autour du thème du récipient, ce fameux récipient, le bol, qui date de millénaires en arrière et a commencé par être utilitaire et qui aujourd'hui devient sculpturel. Donc on a quelques propositions comme ça de petites et grandes dimensions. Nous avons des installations, des sculptures, de la figurine de porcelaine. On a presque une proposition de terre crue, mais ça ne s'est pas concrétisé finalement. et on a à la fois aussi des matériaux de récupération porcelaine. On a c'est vraiment extrêmement diversifié, émaillé, non émaillé, petit format, grand format. Suspension, tout ça autour d'un thème. En fait, le thème proposé, luxe, calme et volupté, a suscité vraiment des réflexions absolument centrales, en fait. Tout à fait en lien avec la vie contemporaine, en fait. Artistes réfléchissent et proposent des réflexions au public qui concernent aussi bien les problématiques économiques, sociales, humaines en général, environnementales également. On a par exemple un Laurin Schaub qui réfléchit sur la position et le rôle du céramiste aujourd'hui à l'ère de ces grandes chaînes internationales qui nous proposent du design à bas prix.
Voilà, et en série.
La question se pose de savoir comment moi, céramiste suisse, j'arrive à me débrouiller face à une concurrence pareille. Donc on a des questions, des réflexions proposées qui sont absolument en phase avec l'actualité. Il y a un très beau pont qui se fait là entre les arts appliqués et l'art plastique et les plasticiens.
C'est ce que je trouvais quand nous sommes allés enregistrer ces trois émissions in situ, justement, et rencontrer aussi toutes les autres, toute l'équipe du musée et les actions qu'ils pouvaient faire. C'est un petit peu cette, vraiment cette volonté, en tout cas du musée, bien sûr, et de par rapport aux artistes accueillis, aux démarches, propositions faites, cet ancrage, je dirais, aussi dans le quotidien, cet ancrage aussi dans les questions aussi contemporaines de notre société. Et puis, en même temps... De ce fait-là, de chercher aussi à inscrire le musée comme un médiateur, comme un espace de dialogue, comme un espace aussi de revisiter des questions. Bien sûr, il y a la matière, bien sûr, il y a l'œuvre, mais comment celle-ci vient interpréter très fondamentalement, finalement, la place de chacun, son existence au travers de ça, ou nous attirer aussi sur des questions précises qui, peut-être, ne venaient pas à l'esprit de certaines. Et ça, je trouve que dans les propos que vous nous faites, et que vous, dans la manière dont vous nous présentez aussi cette nouvelle exposition et ses enjeux, il y a aussi cette question très fondamentale. Et pour vous, c'est important aussi que, finalement, le musée, par rapport à dans son rôle de ce que doit être le musée aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous semble important d'aller dans ces directions-là?
Alors absolument, c'est tout à fait essentiel. Je pense que c'est une orientation qui est donnée depuis la nouvelle direction, en particulier grâce au travail d'Isabelle Neff-Galouba et Anne-Claire Schumacher, qui ont clairement, dès le début, orienté le musée vers quelque chose, vers une institution ouverte au public.
C'est ça.
Et en fait, en faisant cela, elles aident le public aussi à comprendre que la céramique, c'est quotidien.
On en a
tous les jours autour de nous, on l'oublie. Mmh. On l'oublie aussi dans la vie pratique lorsqu'on achète une tasse à 2 francs faite loin de chez nous, qu'il y a un savoir-faire derrière, que c'est une utilisation quotidienne. Et de ce fait, on peut changer, à mon avis, le regard de tout un chacun sur la vieille tasse de grand-mère, disons-le. Parce qu'on n'est pas un musée de la vieille tasse de grand-mère, même si on en donne l'impression parfois.
Voilà, il y a quand même tout un travail qui a été fait à partir de là pour vous montrer que ce n'est pas que ça, effectivement.
Exactement. Donc là, et puis bon, les échanges dans le cadre d'une institution, c'est central, en effet.
Absolument.
L'importance des échanges.
Alors
on l'a
peut-être
vu aussi par le biais de Terre d'Islam.
Oui, magnifique
qui
travail.
Qui avait une programmation extrêmement riche
et
qui proposait débats, conférences et échanges interculturels, afin de remettre au goût du jour,
ou
en évidence plutôt, non seulement l'aspect quotidien de l'emploi de la céramique, mais aussi à quel point elle est le fruit en fait de collaborations complètement internationales par le biais des échanges commerciaux. C'est de ce fait-là que les techniques ont évolué, s'inspirant à la fois des terres moyen-orientales, mais également des savoir-faire extrême-orientaux. Donc c'était ces échanges-là au niveau de la culture et des techniques est central, et je pense est tout à fait au goût du jour par rapport
au monde
dans lequel nous vivons.
Vous avez raison de le souligner très, très fortement. Alors peut-être, Sophie Wirth-Brentini, on peut peut-être évoquer les dates aussi maintenant pour encourager aussi bien ce côté de la frontière à aller visiter, puis bien sûr très, très, très largement. Alors à partir de quelle date, à partir du mois de mai, va-t-on pouvoir venir découvrir cette exposition?
Alors nous vernissons l'exposition le 30 mai à 17h30.
Très bien.
C'est un samedi.
C'est un samedi, donc c'est très bien aussi pour aller et encourager nos auditeurs à aller se rendre justement à Genève et venir découvrir cette belle exposition.
Exactement. Alors l'exposition n'ouvrira qu'à 17h30, mais avant ça, vous pourrez, en espérant le soleil, découvrir le parc.
Magnifique
et,
parc.
Les collections permanentes du musée qui seront bien sûr ouvertes. Et puis, elle fermera ses portes le 1er novembre 2015.
Ce qui laisse quand même une très grande période pour pouvoir aller la rencontrer et s'immerger dedans, en tout cas.
Exactement. Et puis alors, le lendemain du 30 mai, nous avons deux conférences sur le thème du luxe qui seront données d'une part par Nicolas Lemoigne, designer et professeur à l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne. Et puis, une seconde conférence le même jour par Donatella Bernardi, intitulée « Tendre, fragile, inoubliable et insaisissable ». Ces deux conférences auront lieu dans le cadre de l'Assemblée générale de Swiss Ceramics, l'association professionnelle, et a reçu le soutien de la Fondation Amavérund. Elles auront lieu donc le dimanche 31 mai dès 10h30.
Voilà des rendez-vous passionnants et vraiment nous avons été très heureux de vous accueillir dans le cadre de notre émission Sophie Verbrentini pour donc cette nouvelle exposition Luce, calme et volupté. Et je vous propose, comme je vous l'avais promis dans cette introduction de cette interview, on va redécouvrir la musique d'Henri Duparc, mais cette fois-ci une invitation au voyage, toujours le poème de Charles Baudelaire qui a servi de construction à cette œuvre, mais cette fois-ci dans une version instrumentale, piano et violoncelle, interprétée par Brigitte Engerer, célèbre pianiste, et Henri de Marquette aussi, célèbre violoncelliste. C'est sur cette musique que je vous quitte, et en tout cas, on peut se dire à très bientôt pour suivre, comme je le disais tout à l'heure, de manière très 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 près de tout ce qui se passe de très intéressant au musée Ariana.
Alors, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil.
Je vous en prie. Et donc, à très bientôt. Alors, bonne journée à vous.
À bientôt. Merci, monsieur. Au revoir.
Au revoir.
L'invitation au voyage, musique de Henri Duparc, poème de Charles Baudelaire, version instrumentale, piano et violoncelle, interprétée par Brigitte Engerer, piano, et Henri Demarquette au violoncelle. Vous écoutez Résonance sur Radio B. Et nous poursuivons notre émission avec vous, Tiffany, pour évoquer, à travers votre chronique, les différentes médiations que les musées mettent en place aujourd'hui à l'attention des personnes en situation de handicap.
Alors, bonjour déjà.
Bonjour Tiffany.
Alors, je vais effectivement parler de ce qui se fait de novateur dans la médiation qui va être accessible aux personnes en situation de handicap et donc au musée. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de dispositifs de médiation accessibles maintenant, mais j'aimerais surtout parler de la médiation qui va mobiliser plusieurs sens à la fois. Donc, je pense beaucoup à des actions qui vont être dans la manipulation d'objets, parfois dans des ateliers de fabrication. C'est très, très varié, en fait. Et dans ces cas-là, ce qui va être mis en avant, c'est souvent, c'est stimulant et ça donne envie de s'intéresser. Et par exemple, j'ai vu beaucoup ça mis en remarque sur des médiations proposées aux personnes qui vont être en situation de handicap mental. Alors que, c'est bien pour tout le monde que ça donne envie de s'intéresser et d'essayer, pour moi en tout cas. Et du coup, c'est vrai que ça va de plus en plus se retrouver dans des actions pour tout public, finalement, qui en plus vont être accessibles. Et ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que de pouvoir voir, c'est le premier sens dans le musée, mais aussi de toucher, de sentir, d'entendre, voire de goûter, mais c'est encore très très rare quand même, ça permet de multiplier les modes d'accès à l'œuvre et à la connaissance. Et plus on a de modes d'accès, de moyens d'accéder, moins il va y avoir de risques que des personnes soient désavantagées, donc par un handicap pour par l'accessibilité. Et par exemple, pour être plus précis, une manipulation d'objets ou d'œuvres, c'est vrai que pour les personnes en déficit visuel, déjà, c'est évident que ça va être génial pour pouvoir la découvrir. Mais pour des personnes aussi qui auraient du mal avec les choses abstraites, ça rend le tout plus concret et beaucoup plus réel. Et pour tout le monde, c'est une nouvelle façon de percevoir l'œuvre, donc ça a vraiment son intérêt pour chaque personne, parfois de manière différente. Et puis aussi pour tout le monde, je pense que pouvoir toucher l'œuvre, c'est pas pareil que de l'avoir derrière une vitrine, c'est plus personnel.
Complètement.
C'est intime. Du coup, j'ai essayé de prendre note de quelques musées qui font des choses comme ça, et déjà j'ai remarqué que c'est beaucoup plus dans la médiation scientifique à la base.
C'est ça.
Donc je pense que c'est avec la Cité des Sciences, ça a commencé là. Puis c'est vrai que c'est logique, c'est pédagogique en fait. Donc on a le musée de Solutré en Saône-et-Loire, c'est un musée qui est sur un gisement de préhistorique, la célèbre roche de Solutré, donc c'est très connu pour ça.
Tout à fait, très proche de nous.
Oui aussi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ils ont une visite guidée qui s'appelle la préhistoire par les sens, donc déjà pour quelque chose d'historique, je pense que ça rend les choses beaucoup plus réelles. Et donc tous les sens vont être mobilisés, touchés, écoutés, sentir, manipulés. Et c'est une visite accessible pour tous, donc handicapés, pas handicapés, et tout le monde est ensemble, donc je pense que c'est assez important de pouvoir avoir tout le monde ensemble.
Comme on le disait tout à l'heure avec Sophie Wirth-Brentini, finalement avec le musée Ariana, comment justement le musée en tant que tel peut être justement l'ouverture à tous, bien évidemment, mais aussi un endroit de dialogue, un endroit où chacun se rencontre, chacun, quel qu'il soit. Ça peut être aussi le lieu de rencontre avec ceux et celles qu'on n'a peut-être pas forcément toujours l'habitude de rencontrer.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que le musée, ça va être un peu la sortie du dimanche, donc ça permet de profiter un peu, de rencontrer du monde. C'est pas un truc mort, entre guillemets.
Voilà, c'est ça. Complètement. C'est vivant, un musée. Voilà.
Et du coup, un musée qui m'a beaucoup intéressée, c'est le musée de la piscine de Roubaix, qui est plus loin de nous, là. Et ils ont des choses où il y a des tiroirs sur les visites, où on peut mettre les mains dedans et toucher plein de choses. Donc ça va être en rapport avec les expositions quand même. Mais pour le son, ça va être par rapport à la mémoire du lieu. Ça reproduit le bruit des enfants dans le bassin de la piscine, comme avant. Et même l'odorat, ce que je trouve rare quand même, ça semble difficile à mobiliser en musée. Et en fait, dans certaines visites, il y a des mouillettes qui sont passées avec des parfums dessus.
Oui, donc là aussi, découverte des senteurs, découverte de l'odorat, passionnant également.
Oui, et encore plus spécifique, dans ce même musée, c'est qu'ils ont fait des actions avec des personnes atteintes d'Alzheimer. Moi, tout de suite, ce qui me marque, c'est qu'on parle d'odorat et c'est vrai que c'est le mieux pour mobiliser la mémoire, paraît-il. Et il y a la musique aussi qui est vecteur de souvenirs. Ça me fait rebondir sur le musée de la musique, à Paris qui fait des visites expérimentales. Donc, les personnes malades d'Alzheimer visitaient le musée, participaient à des ateliers, il y avait beaucoup de manipulation d'instruments. Enfin, de ce que j'ai vu dans le petit documentaire, ça avait vraiment l'air de plaire, vu qu'une dame a dit qu'elle se sentait vivante en sortant. C'est que ça marche.
Il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas.
Et pour parler plus près au musée de la vie bourguignonne à Dijon, que je connais bien, les personnes, je parle encore des personnes atteintes d'Alzheimer, ils les faisaient visiter et manipuler des objets anciens, vu que c'est beaucoup d'objets anciens dans ce musée. Des casseroles, des assiettes, vraiment des choses de la vie quotidienne. Et ça pouvait leur rappeler des choses et surtout leur faire parler et raconter donc avec la famille.
Les souvenirs, les échanges, de ce que pouvait être aussi une partie de leur vie passée.
Oui, du coup, c'est un musée qui est fait pour l'échange, en fait. C'est dans leur stratégie de médiation. Donc,
Et là, on voit que c'est important. Ça rejoint encore les propos de tout à l'heure de Sophie Virbentini là, du musée Ariana, où il y a une vraie réflexion, en tout cas de beaucoup de musées aujourd'hui, à ce que ça ne soit plus le côté mosaïfication des choses, mais au contraire, que ça puisse être un endroit où on a envie d'y revenir, on a envie d'y passer un moment. Vous disiez tout à l'heure, le côté vivant aussi. Oui. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, effectivement.
Effectivement, ce musée, on allait le visiter avec ma classe, mais sur le coup, on nous a dit on va à ce musée et musée de la vie bourguignonne. On s'est dit, on va voir des casseroles. Enfin, c'est...
Oui, vous étiez interrogative, en tout cas, par rapport à l'intérêt.
Et c'est ça. Enfin, moi, j'avais un très vague souvenir qu'il y avait des statues, des choses comme ça, mais j'avais été petite. Et en fait, c'est un musée qui est très, très vivant, vu que ça suit les âges de la vie, et qui est très, très beau aussi. C'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément, alors même qu'on est quand même des étudiants en culture, on est censé être un peu sensibilisés quand même. Mais bon, il y a des surprises toujours.
Et comme quoi se rendre aussi dans les lieux et autres, on en a une toute autre perception aussi également.
Oui, oui. Et tout ce que j'ai dit là, en fait, on vient un peu d'en parler, c'est que plus une médiation va laisser les personnes un peu faire leurs propres interactions avec les œuvres, ou les objets, plus il y a de modes d'accès, plus ça va aller naturellement vers quelque chose d'accessible, je pense, vu qu'il y aura plein de façons de pouvoir interagir. Et d'autant plus que des choses comme le toucher, on l'a déjà dit dans une des émissions du Musée Ariana d'ailleurs, ça va faciliter l'interaction humaine, vu que c'est des perceptions qui vont être personnelles, donc les gens ils vont commencer à discuter entre eux de ce qu'ils perçoivent. Et du coup, ça rend l'expérience plus vivante et je pense que c'est quelque chose à creuser aujourd'hui.
Oui, et en même temps, il y a le côté... Donc, comme vous le disiez, ça, quels que soient les procédés de médiation, il y a un espace conversationnel qui se met en place, des paroles, des échanges. Et du coup, c'est à la fois effectivement un facilitateur pour que les gens rentrent en communication et en même temps pour l'œuvre aussi, puisque du coup, on parle de l'œuvre, on parle de ses émotions, on parle de ce qu'elle est. Donc, peut-être aussi, ça enclenche quelque chose qui est peut-être la plus sûre communication, si je peux dire, autour de l'œuvre, parce que ça veut dire qu'on en parle là, mais on va en parler à d'autres. Elle entre dans un espace de conversation et de parole qui fait que du coup c'est peut-être par ce biais-là que l'œuvre en tout cas peut justement s'essaimer elle-même, qu'on puisse en parler et qu'elle reste vivante, elle aussi finalement.
Ça va s'enrichir aussi un peu comme ça, vu que telle personne va dire une chose que l'autre n'avait pas vue et etc etc.
tout à fait passionnant et je trouve que ça vient alimenter tout ce que nous évoquait tout à l'heure donc Sophie Virbentini au musée Ariana. Une pause musicale avec on reste avec la Suisse et un compositeur suisse que nous avons déjà entendu sur notre antenne, William Blanc.
Nel vento nascita, la malattia, la morte, la presenza del mio cielo.
Vous écoutez Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre Canto, composition de William Blanc, compositeur suisse. Nous continuons avec la littérature, puisque là aussi on parlait Baudelaire au début de cette émission. Là, un autre grand poète, mais italien cette fois-ci, du 20e, Mario Luzi. Donc cette œuvre pour soprano et orchestre, interprétée par Rosemary Hardy pour la soprane, Robert von Sinche Marimba, et l'ensemble contre-chant, placé sous la direction de Zsolt Nagy. Alors, j'aimerais aussi, finalement, que l'on reste dans cette fin d'émission encore autour de cette collaboration avec la Suisse voisine et cet espace de coopération qui existe ainsi entre les différents territoires qui se trouvent avoir une frontière commune avec ce pays pour évoquer une action franco-suisse, les rencontres naturellement art, nature, singularité. Qu'est-ce que sont ces rencontres ? Naturellement, c'est le résultat d'une rencontre entre l'art, la nature et le handicap, qui offre une scène d'exposition et une programmation originale capable d'émouvoir et d'intéresser tous les publics. Celles-ci sont soutenues et accompagnées par le comité régional franco-genevois. Et le projet 2015, si on peut le dépeindre un peu en bref, le projet artistique naturellement art, nature et singularité est reconduit pour une deuxième émission au cours de cette année 2015 sur la base d'un appel à projet. Trois artistes en résidence dans un établissement médico-social vont à nouveau intervenir dans un site ouvert au public. Les œuvres retenues et proposées sont développées en étroite collaboration avec des personnes en situation de handicap et réalisées par exemple en avril dans l'Ain, dans le cadre des 7 biches chemins de traverse organisés à Bourg-en-Bresse par Nos Soins, par Résonance Contemporaine. En septembre prochain, ce sera en Haute-Savoie avec le PLAD Ferme de Chosal, et en octobre à Genève, par le biais aussi de l'association Cap Loisirs. Alors la valeur emblématique du projet a été matérialisée par également un échange de terres prélevé sur les différents territoires. L'élémentaire devient ainsi une métaphore destinée à rapprocher les trois territoires, leurs participants et leur public. Donc naturellement de 2015, ces rencontres naturellement, ces trois artistes, trois lieux, trois établissements médico-sociaux, trois artistes donc pour, par exemple, Bourg-en-Bresse. L'œuvre est installée sur le Champ de Mars, elle s'intitule « Hors limite » et c'est l'artiste Tony Di Napoli qui l'a donc réalisé. Donc n'hésitez pas, chers amis burgiens et auditeurs, à aller vous hasarder sur le Champ de Mars et vous verrez qu'il y a toutes des petites indications pour vous aussi vous essayez, vous aventurez donc à entrer dans cette œuvre qui est à la fois visuelle mais également sonore et musicale. Et puis le plaid pour le plaid de Chosal, Haute-Savoie, à Coponex, c'est l'artiste Pierre Guimet qui réalisera prochainement son œuvre. Et enfin pour ce qui est de Genève, ce sont donc au cœur de la cité genevoise, les Bains Paquis, tout au bord du lac, sur le quai du Mont Blanc, où là cette fois-ci c'est l'artiste Viviane Rabot qui proposera donc dans quelque temps son œuvre. Donc vous voyez donc un projet interterritorial soutenu par le comité régional franco-genevois, mais aussi avec le soutien des conseils départementaux de la Haute-Savoie, de l'Ain et de l'Ain, de la ville de Genève et du canton de Vaud. Donc voilà, encore toute une dynamique interrégionale nous mêlant et nous associant à nos amis suisses.
Thank you.
Vous écoutez Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre un extrait, le premier mouvement de Où le mystère précipité hurlait, une œuvre de 2007, composée par Nicolas Bolens, là aussi compositeur suisse également, et qui a travaillé à partir d'un poème de Stéphane Mallarmé. Là aussi, notre continuité, Baudelaire, Lotzi, Mallarmé aujourd'hui dans cette émission. Le tout était réalisé par l'ensemble vocal Séquence, ensemble Genevois, placé sous la direction de Laurent Gay. Et nous arrivons ainsi, après cette magnifique œuvre, nous arrivons au terme de cette émission. Aujourd'hui, j'étais accompagné de Tiffany Vachet, à la technique et à la réalisation de Simon Deborne. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 18h à 19h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, pour écouter Radio B en direct ou en différé, podcasté et connaître la grille des programmes, vous pouvez vous rendre sur www.tropicfm.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. Et que cette journée vous soit belle et douce. À bientôt.
Mais ce serait pas le générique de Claps ?
Mais si, c'est l'émission qui parle de cinéma sur Radio B.
Radio B comme Claps ?
Oui, ça passe un lundi sur deux sur 90.